Terre. Voici le journal de Sébastien Logeni. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, un accord salarial à faire pâlir d'envie les fonctionnaires français. Les syndicats allemands ont signé cette nuit une hausse de salaire très substantielle avec le gouvernement d'Angela Merkel. On y revient dans un instant avec notre correspondant sur place. Une journée de galère, mais moins galère que les autres. Quatrième phase de la grève perlée à la SNCF avec moins de grévistes et plus de trains en circulation. Autre mouvement social, celui des universités. Pas de nouvelles facultés touchées, mais des blocages qui se poursuivent, notamment à Nanterre. Marc, vous recevez à 8h20 le président de l'Université de Nanterre.
Oui, Jean-François Balaudet, qui sont les bloqueurs? Que veulent-ils précisément? La réforme Parcoursup met-elle vraiment de la sélection à l'entrée de la fac? On posera la question et on attend les vôtres avec Léa Salamé et avec le standard de France Inter qui est ouvert, bien sûr, 01 45 24 7000.
Au menu également dans ce journal, la fin d'une époque à Cuba, la fin de la dynastie des Castro. Raoul s'apprête à céder le pouvoir demain. La mort d'une vieille dame de la politique américaine, Barbara Bush, avait 92 ans. Les journalistes et les lanceurs d'alerte s'inquiètent d'un texte qui risque de limiter leur liberté d'enquêter. Une bactérie mangeuse de plastique au secours des océans pollués. Puis le crépuscule d'une icône, la fin de la chanteuse Nico, racontée dans un biopic qui sort aujourd'hui sur les écrans. Voilà une information qui devrait faire bondir nos syndicats et surtout nos fonctionnaires. L'Allemagne s'apprête à augmenter les salaires de ses 2 millions de fonctionnaires, et pas qu'un peu, une hausse de 7,5%. Les explications de notre correspondant outre-Rhin, Cyril Sauvageau.
Les fonctionnaires allemands ont mangé leur pain noir. Après des années à se serrer la ceinture au nom du désendettement de l'État et des collectivités, ils vont enfin pouvoir profiter, eux aussi, de l'embellie économique. 7,5% d'augmentation sur 3 ans, c'est le meilleur accord obtenu depuis des années, a reconnu le patron du syndicat Verdi. La hausse se fera en trois temps, d'abord 3,2% rétroactivement au 1er mars 2018, puis 3% en 2019 et 1% en 2020. Les syndicats ont également obtenu une prime de 250 euros pour les bas salaires. Près de 2,5 millions d'agents sont concernés, parmi lesquels les employés des crèches, des hôpitaux, des aéroports ou des services de ramassage des ordures. La semaine dernière, 150 000 d'entre eux avaient pris part à des grèves d'avertissement qui ont bloqué le pays. Face au risque d'un durcissement, l'État a donc préféré lâcher du lest. Difficile de rester sourd aux revendications, tous les voyants sont au vert, le taux de chômage est au plus bas depuis 30 ans et les caisses sont pleines. L'État fédéral a encore dégagé un excédent budgétaire record en 2017. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Du sourire des fonctionnaires allemands à la colère des cheminots français, maintenant le mouvement s'affaiblit à la SNCF.
À chaque nouvel épisode de grève, les effectifs des grévistes s'érodent un peu plus. Quatrième épisode aujourd'hui, et selon les chiffres de la SNCF, les grévistes seront donc 32% ce mercredi contre 48% au début du mouvement, 16 points de moins, avec toutefois de grandes disparités entre les métiers, puisque les conducteurs restent eux très mobilisés, avec 63% de grévistes au lieu de 77%. 7% il y a 15 jours. La direction veut y voir un signe d'essoufflement et promet plus de trains et moins de galères sur les rails ces deux prochains jours. Maxime Deps.
250 TGV pourront circuler. C'est peu par rapport à d'habitude, beaucoup comparé au mois de mars. Une cause notamment à ça, un taux de grévistes en baisse, avance la direction de la SNCF. Son porte-parole, Mathias Vichra.
On passe de 48% le 3 avril à 32% le 18 avril. Donc on a une baisse de 16 points. Cette baisse cumulée à l'habitude que l'on commence à prendre séquence de grève après séquence de grève, on a effectivement un plan de transport nettement amélioré.
Circuleront donc aujourd'hui plus d'un TGV sur trois, avec des disparités considérables selon votre destination. Sur le réseau Grand Est, par exemple, deux tiers des trajets à grande vitesse seront assurés. Bien, c'est mieux que le réseau Atlantique, où là, pour certains, ce sera clairement plus compliqué que pour d'autres. Pour les habitués du Paris-Brest, ça va encore, mais si vous envisagiez de faire un Paris-Quimper dans la journée, c'est raté, impossible hier soir de trouver le moindre billet.
Je ne peux pas vous répondre précisément sur le Paris-Quimper ou le Paris-Brest. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on a priorisé la réouverture des lignes sur lesquelles la demande était la plus forte.
Et priorité parmi les priorités pour la SNCF, en pleine semaine, les trains, surtout du quotidien, les TER, les transiliens, de 40 à 50% du trafic pourra être assuré sur ces lignes aujourd'hui.
Maxime Deps du service économique de France Inter. Et puis donc côté trafic, précisément, ça donne pour aujourd'hui un TGV sur 3, 2 TER sur 5, 2 transiliens sur 5, 1 intercité sur 4 et 3 trains sur 4 à l'international. Pour redonner du souffle, souffle aux cheminots et tenter de faire converger les luttes. Les électriciens entrent aujourd'hui dans la danse. La CGT Mines Énergie appelle les salariés du secteur à se mettre en grève à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 juin. Parmi les actions envisagées, des coupures d'électricité ciblées sur des entreprises qui licencient, comme par exemple Carrefour, et le retour du courant pour les familles privées d'électricité à cause de factures impayées. Va-t-on sortir de l'impasse à Notre-Dame-des-Landes? Après 9 jours de tension et de violence, le dialogue doit reprendre aujourd'hui entre la préfète et des représentants des zadistes qui ont accepté de venir négocier ce matin à Nantes.
À l'étranger, Cuba, à l'heure d'un passage de témoin historique.
C'est la fin de l'ère des Castro après la mort de Fidel. C'est son frère Raoul qui s'apprête à passer la main demain au cours d'une session exceptionnelle à l'Assemblée nationale. Deux Fidel et Raoul Castro auront été à la tête de l'île pendant 60 années. Un héritage qui est aujourd'hui de plus en plus critiqué. Le reportage de notre envoyé spécial à Cuba, Olivier Poujade.
La fin d'une fratrie, celle des Castro, même si Raoul continuera de diriger l'unique parti politique autorisé sur l'île, le PCC, mais ce changement de présidence ne signifie pas la fin d'un modèle, celui de cette révolution qui porte mal son nom, d'après le politologue cubain Armando Chaguaceda, aujourd'hui exilé au Mexique.
Une révolution, c'est un processus radical, progressiste, qui combat le conservatisme. Comment peut-on dire d'un régime qu'il est révolutionnaire alors qu'il se définit de la même manière depuis 60 ans ? Un régime où l'on ne peut voter que pour un seul parti. Ce n'est pas très révolutionnaire.
De nombreuses réformes économiques essentiellement ont été engagées ces dernières années. Même le bureau politique semble s'y résigner, mais elles sont trop lentes, constate Omar Everleni, économiste au Centre de réflexion et de dialogue cubain.
Il y a une crainte de penser que si Cuba s'ouvre au marché, elle se rapprochera du capitalisme. Mais la Chine, le Vietnam continuent d'être des pays socialistes, même s'ils se sont ouverts à l'économie de marché. Et je pense que c'est impossible de poursuivre la construction du socialisme sans s'ouvrir au marché.
Défendre les acquis sociaux de la révolution, une espérance de vie, un taux d'alphabétisation à la hauteur des pays développés, mais que l'État cubain n'est plus en mesure de financer. La Havane, Olivier Poujade, Gilles Gallinaro, France Inter.
Et Cuba et la saga des Castro retrouvée sur le site de franceinter.fr. Et puis si ce n'est pas encore officiel, c'est sans doute le premier vice-président et numéro 2 du gouvernement, Miguel Díaz-Canel, qui sera le nouveau visage du pouvoir cubain, un homme du système âgé de 57 ans et le bras droit de Raoul Castro depuis 5 ans. Après Cuba, la Corée du Nord va-t-elle normaliser ses relations avec les États-Unis? La presse américaine nous apprend cette nuit que les contacts entre les deux pays sont encore montés d'un cran. Mike Pompeo, le secrétaire d'État désigné, aurait rencontré secrètement le leader de Pyongyang il y a quelques semaines. Révélation du Washington Post. Pour le moment, 5 lieux sont envisagés pour une rencontre possible entre le mois de mai et le début juin entre Trump et Kim Jong-un. Elle aura suivi les coulisses de l'économie et de la politique américaine pendant des décennies. Barbara Bush est morte hier à 92 ans. Elle avait été l'épouse de l'ancien président américain George Bush et la mère de l'autre ancien président George W. Bush, une des premières dames les plus aimées des Américains. La correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Novembre 88, George Bush père vient de remporter la présidentielle et fait monter sur scène la future première dame des États-Unis.
Come on up, sweetie pie, come on up. Thank you very, very much. Sweetie.
Tous les deux passeront 4 années à la Maison Blanche. Barbara Bush sera l'une des First Lady les plus populaires, assez peu politique, mais très impliquée notamment pour faciliter l'accès des Américains à la littérature. Puis en l'an 2000, c'est son fils, George W. Bush, qui devient le 43e président des États-Unis. Voici ce qu'il disait de sa mère. « Quand j'étais candidat au poste de gouverneur du Texas, je disais souvent « j'ai les yeux de mon père, mais la faconde de ma mère ». T'en as de la chance. Barbara Bush reste la seule femme à avoir de son vivant été l'épouse puis la mère d'un président américain. Sa seule fille Dorothy n'a pas fait de carrière politique, mais ça n'empêchait pas Barbara Bush d'être discrètement féministe. Voici ce qu'elle déclare en 90 lors d'une remise de diplôme organisée par une université du Massachusetts. Qui sait, peut-être que dans cette salle, il y a quelqu'un qui un jour marchera sur mes traces et ira jusqu'à la Maison Blanche pour suivre la personne qu'il aime. Eh bien, à cet homme-là, je lui souhaite le meilleur. Barbara Bush laisse derrière elle son époux, l'ancien président George Bush, avec lequel elle a été mariée pendant 73 ans. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
En bref, enfin en Syrie, confusion autour des experts de l'ONU censés enquêter sur l'attaque chimique à la Ghouta. Selon la Syrie, ils ont pu accéder à l'enclave rebelle, mais pas selon les États-Unis. Quoi qu'il en soit, tout le monde se doute de la capacité des experts à récupérer des éléments probants 11 jours après les faits. Les droits des journalistes français et des lanceurs d'alerte sont-ils menacés? Le texte de loi sur le secret des affaires est présenté aujourd'hui au Sénat. En toute discrétion, il prévoit de mieux protéger certaines informations commerciales ou industrielles au détriment de la liberté d'informer. C'est en tout cas ce que craignent une vingtaine de sociétés des journalistes, dont celle de Radio France et une cinquantaine d'associations qui ont décidé d'envoyer un courrier à Emmanuel Macron. Sarah Guibaudot.
Nous vous demandons, Monsieur le Président, de défendre le droit à l'information et l'intérêt général, écrivent associations et sociétés de journalistes. Pour protéger les entreprises, le secret des affaires ne devrait s'appliquer qu'aux seuls acteurs concurrentiels, estiment les signataires. Hassan Ebar représente Pollinis, une association de défense des abeilles. Elle s'intéresse aux molécules mises sur le marché qui pourraient être protégées par le secret des affaires.
Jusqu'à présent, on ne s'intéressait pas trop à la nature, secret d'affaires ou pas, des informations qu'on pouvait trouver auprès des chercheurs. Maintenant, on va devoir se poser la question de est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas, ou même de détenir ces informations-là. Rien n'empêche Monsanto, par exemple, hein, ou Bayer, ou Syngenta, nous attaquer. La notion de secret d'affaires est tellement floue.
Le texte protège les lanceurs d'alerte, les syndicats et les journalistes, mais pas les ONG ni les chercheurs. Lorraine Bounot de Transparency France dénonce une inversion des principes.
Le secret des affaires devient la règle et les libertés, les exceptions. On a une procédure accélérée, la société civile n'est pas consultée, c'est vraiment dommageable.
Le texte prévoyait en revanche des sanctions pour les entreprises qui intentent des procédures abusives contre journalistes ou lanceurs d'alerte. Mais la commission des lois du Sénat les a supprimés.
Sarah Guibaudot, encore une nuit d'échauffourée dans le quartier du Mirail à Toulouse, mais moins violente que les deux précédentes. Cette voiture incendiée, notamment chez un concessionnaire situé dans le quartier voisin. Allez, soufflons un peu, respirons un bon coup. Il fait beau et il va faire beau toute la semaine. Enfin, du soleil pour réchauffer nos carcasses grelottantes. C'est la carte postale du jour sur les bords de Marne, signée Valentin Dunat.
Ça y est, le soleil brille de nouveau sur la Marne, on entend le chant des oiseaux et Eliane qui revit.
Ah bah moi ça me met de bonne humeur, ah oui complètement.
Et quand je vous annonce qu'il fait 30 degrés là dans les jours qui viennent?
Moi j'ai jamais trop chaud, froid oui, trop chaud jamais.
Forcément avec le retour du beau temps, les bords de Marne attirent Émilie Filiot du comité du tourisme du Val-de-Marne.
Alors bien sûr, on l'attendait avec hâte, ce soleil. Les gens, là, depuis le week-end dernier, ressortent. On les voit beaucoup se balader, notamment le long de la Marne. Et je pense qu'aussi, on a beaucoup plus d'appels maintenant de gens qui souhaitent avoir des idées de sortie. Ils veulent prendre l'air, on va dire.
Prendre l'air pour faire du footing, par exemple. Ils sont nombreux à remettre les shorts roses, par exemple. Le soleil lui donne des ailes.
Hier, j'ai repris le sport. Ça faisait au moins 6 mois que je n'avais pas mis les pieds sur les bords de Marne pour courir en tout cas.
Rose n'est pas la seule à avoir envie de bouger, son fils Evan, 9 ans et demi également.
Ça donne envie de faire des choses comme le vélo, les trottinettes et tout ce qui va avec.
Reste une question, et l'eau dans tout ça?
S'il fait chaud, c'est sûr qu'on a envie d'aller dans l'eau.
Eh bien déjà, c'est interdit de se baigner dans la Marne pour faire du kayak ou du bateau. Là, il faudra encore attendre quelques semaines. En attendant, on en profite et on écoute les oiseaux.
Valentin Dunat de France Bleu, Paris pour les oiseaux. Un mot pour un petit club heureux comme un grand champion. Ce sont donc les footballeurs amateurs vendéens des Herbiers qui seront le 8 mai prochain au Stade de France en finale de la Coupe de France. Vainqueurs d'un match endiablé hier soir contre les joueurs de Chambly, victoire 2-0. Ils connaîtront leur adversaire ce soir après la deuxième demi-finale qui opposera Caen au terrible PSG qui est, paraît-il, marque favori. On termine avec le cinéma et on termine avec Nico 88, donc un biopic, comme on dit, hein, sur l'égérie du célèbre groupe de musique Le Velvet Underground et de la Factory d'Andy Warhol, la chanteuse Nico, morte en 1988 après une vie de furie et de solitude. Mathieu Culeron.
Don't call me Nico.
Le film débute sur Nico qui part faire un tour en vélo à Ibiza. Elle a le temps de dire à son fils Harry qu'elle revient tout de suite. Elle va mourir quelques instants plus tard, à l'âge de 49 ans. Le film Nico 1988 s'intéresse à la période la moins glamour de l'ancienne chanteuse du Velvet Underground, la plus intéressante aussi. Celle de ses albums en solo, celle de son addiction à l'héroïne et celle de son statut de mère artiste. Un point de départ qui donne sa force au film, l'idée de Susanna Nicarelli, la réalisatrice.
Nico, elle n'est pas morte
jeune de drogue à 27 ans, mais elle a survécu. Et ce qu'elle a fait après était encore plus intéressant de ce qu'elle a fait avant. Et donc, ça me permettait de renverser le cliché du biopic.
On suit la Nico quadragénaire dans ses tournées en minivan. Une vie qui pourrait sembler pathétique après les années new-yorkaises, mais une vie réelle qui lui donne toute satisfaction. Trine Dirolm est l'actrice formidable qui interprète Nico dans le film.
J'étais au sommet, j'ai été plus bactère, ces deux endroits sont vides. C'est une phrase très pertinente de Nico et c'est le grand message du film. La vie se trouve au milieu.
Nico 1988 est un film passionnant, touchant, qui repose sur l'interprétation forte de Trine Dirolm, un biopic loin des clichés et des films de fans.
I don't need everybody to like me, I don't care.
Nico 88 de la réalisatrice Susanna Nicchiarelli, ça sort aujourd'hui sur les écrans, puis on termine avec le jury de la 71e édition du Festival de Cannes qui a été dévoilé ce matin. Jury présidé, je vous le rappelle, par l'actrice Cate Blanchett, à retenir notamment la présence du réalisateur et producteur français Robert Guédiguian, des actrices Léa Seydoux et Kristen Stewart et du réalisateur canadien Denis Villeneuve.
Merci Sébastien Le Génie.